Eh bien, c'est moi qui vous remercie et je remercie vraiment les organisateurs, en particulier M. Caillé, de m'avoir invité pour ce cycle de conférences sur un sujet donc, qui m'intéresse beaucoup, celui de la féminisation de la médecine. En tout cas, c'est la médecine au féminin, votre cycle, et je vais l'introduire par cette féminisation. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Faux problèmes et vraies questions ». Peut-être que certains nombres d'entre vous s'en doutent, c'est-à-dire que la féminisation de la médecine, on a souvent pas tant parlé de féminisation que du problème de la féminisation ou du problème des femmes. Alors on va régler ça assez vite, c'est pas un problème. Ça a même été à certains moments, et on le verra, une solution plus qu'un problème. Alors par contre, la féminisation de la médecine, elle permet de poser un certain nombre de questions, et ces questions-là, à mon avis, il faut vraiment les poser, il faut les poser même en dehors de la médecine, c'est-à-dire que cela reflète un certain nombre d'évolutions sociales qui ne sont pas que médicales et qui ne sont pas que liées au champ de la santé. Alors, quand j'ai pensé à préparer cette conférence, j'ai reçu le programme de ce cycle de conférences, donc, et un petit texte de M. Caillé qui introduit ce cycle, et je me suis dit que j'allais partir de là, parce qu'au fond, tout était dit dans ce petit texte. Alors voilà ce qui est écrit. « La médecine est devenue un métier comme les autres, elle s'est démocratisée, elle est étudiée et pratiquée par une majorité de femmes, alors que jusqu'à peu, elle était réservée à une élite sociale essentiellement masculine. » Alors, je crois qu'à partir de là, on peut quand même poser un certain nombre de questions. D'abord, est-ce que la médecine est un métier comme un autre ? C'est pas sûr. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Est-ce qu'elle s'est démocratisée ? C'est une bonne question. Est-ce que parce que les femmes sont quelque part, on est dans une situation de démocratisation ? Est-ce que la féminisation égale la démocratisation ? C'est pas sûr non plus. Mais c'est intéressant de poser cette question-là parce que, justement, l'arrivée des femmes, elle a quelque chose à voir avec ça. Alors, les femmes sont majoritaires, certes en nombre, mais où sont-elles majoritaires et pour faire quoi ? Donc là aussi, la question, c'est quoi la majorité de femmes ? Et puis, qu'est-ce que cette élite sociale masculine dont il est question ? Donc, il y a un ensemble de questions qui sont vraiment intéressantes à poser à partir de cette introduction et qui se poursuit. Nous essaierons d'imaginer quelle pourrait être une médecine réellement féminine, c'est-à-dire une médecine dont l'enseignement, les structures, le fonctionnement seraient assurés par une majorité de femmes. La médecine féminine nous donnerait-elle un supplément d'âme ? Alors je crois que le qualificatif de féminin mérite vraiment d'être interrogé, c'est-à-dire c'est quoi féminin ? Est-ce que c'est seulement une majorité de femmes ? Ou est-ce que ça veut dire des qualités ou des caractéristiques particulières que je ne relierai pas à une nature, mais plutôt à une fonction sociale peut-être particulièrement dévolue aux femmes. Donc, c'est quoi une médecine féminine ? À partir de quel moment on peut rattacher cet adjectif de féminin à une qualité ? Quant au supplément d'âme, là, je crois qu'on pourra toujours ouvrir le débat. Je ne sais pas s'il va s'agir de l'âme des hommes ou de l'âme des femmes, mais il s'agit peut-être d'âme quelque part. Alors, pour répondre à ces différentes questions, je vais vous proposer une petite histoire sociale. Alors, une petite histoire, parce que vous aurez des conférences avec la grande histoire. Et c'est un regard un peu différent qui essaie d'inscrire la féminisation de la médecine dans un certain nombre d'évolutions, qui sont aussi les évolutions de la société, les évolutions du marché du travail, des évolutions qui sont aussi économiques et qui accompagnent, vous verrez, de façon assez éclairante, cette féminisation. Alors, ce sera aussi l'occasion d'interroger les termes d'une concurrence, la concurrence entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, les hommes et les femmes se font-ils concurrence ? Et se font-ils concurrence en médecine ? Ça permettra aussi d'interroger la question de la démocratisation. C'est une question très importante en médecine. En tout cas, moi, je m'y suis pas mal attachée et je crois qu'il y a un enjeu important autour de la question de la démocratisation. Et puis, on se demandera aussi si c'est vraiment un métier comme un autre, la médecine. Et puis, quel est l'avenir de cette féminisation ? Parce qu'il n'est pas dit qu'elle se poursuive toujours dans les mêmes termes. Elle a connu des étapes. Elle a été marquée par différentes périodes. Alors cette histoire, elle est plus générale et sociétale qu'à travers quelques figures. Je pense que vous aurez quelques figures emblématiques qui vous seront racontées. Et on va plutôt parler de la façon dont les premières femmes sont arrivées en médecine, avec une caractéristique très particulière, c'est que ces femmes qui sont arrivées en médecine étaient d'abord des femmes. Je dis ça parce que c'est comme ça que le débat s'est posé et que la discussion a été ouverte, c'est-à-dire quelle place y a-t-il en médecine pour les femmes ? Ça n'est pas est-ce que les femmes et les hommes vont pratiquer le même métier, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un métier féminin de la médecine ? Donc c'est vraiment de cette façon-là que les choses se sont dites. Et même s'il a fallu que les premières femmes bataillent, bien entendu, pour pouvoir s'inscrire en médecine, pour passer l'externat puis l'internat de médecine, globalement, les femmes sont arrivées en médecine en douceur. Elles ne sont pas arrivées avec un combat féministe très affirmé. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques de ces femmes qui arrivent en médecine, et c'est très important de l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'elles ne feront pas une révolution à l'intérieur, mais elles arrivent, comme on peut le dire, elles font une entrée en douce. Et on peut entendre ce « en douce » de différentes façons. Alors, elles arrivent en douceur, elles arrivent doucement, d'abord. Elles arrivent en douce aussi parce qu'on ne les remarque pas tellement. On ne les remarque pas tellement, on va voir pourquoi. C'est parce qu'en fait, elles ne sont pas sous les feux de la rampe, d'une certaine façon. Et puis, elles arrivent en douce aussi parce qu'elles vont transformer les choses l'air de rien. Avant même qu'on s'en rende compte, les choses auront déjà commencé à bouger. Alors, je vous montre là quelques chiffres concernant les étudiantes en médecine à Paris. Autour de la Première Guerre mondiale. Et ces chiffres-là, je les trouve absolument extraordinaires, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent là, qui vont se reproduire à d'autres moments de l'histoire de la féminisation de la médecine. Alors moi, je me suis beaucoup plus intéressée aux étudiants en médecine qu'aux médecins. C'est extraordinaire, la profession médicale, quand on a travaillé sur d'autres secteurs du travail, comme ça a été mon cas, c'est que, en fait, arrivés en deuxième année de médecine, on les a. 90% de ceux qui seront des médecins, ils sont là, ils sont sous nos yeux. Donc, il suffit de regarder ce qui se passe dans les facultés de médecine pour déjà comprendre beaucoup de choses qui vont se passer plus tard, et parfois beaucoup plus tard. Et la féminisation, on va le voir, elle a été, bien entendu, sur les bancs de la faculté, bien avant d'être dans les chiffres généraux des femmes exerçant. Donc, voilà les femmes étudiantes en médecine à Paris. 6% en 1913, 20% entre 1915 et 1919. La Grande Guerre leur a laissé de la place. Les hommes n'étaient pas là. Et puis, tranquillement, elles relaissent quand même moitié de la place aux hommes, gentiment. Et elles sont plus que 10% entre 1919 et 1929. Puis après, ça augmente, mais tout doucement. Elles sont 15% en 1935. Alors, si je dis que ça, c'est très intéressant, c'est qu'en fait, on voit qu'elles ne viennent pas concurrencer directement les hommes. Elles font une percée quand les hommes sont absents. Et après, elles se retirent. Et elles vont faire ça à plusieurs reprises. Et où vont-elles, ces femmes ? Madeleine Presque était la première femme inscrite en médecine française, a fait sa thèse sur les rapports entre la mère et l'enfant. Et elle voulait s'inscrire en médecine pour pratiquer une médecine auprès des femmes et des enfants. n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ces femmes, elles se sont beaucoup calées à des endroits de la médecine où les hommes allaient relativement peu. Elles se sont occupées d'hygiène, elles se sont occupées de diététique. Elles ont fait aussi une médecine de laboratoire parce qu'il y avait une explosion des emplois dans ces domaines-là. Et quand elles étaient soignantes, elles s'occupaient donc plus particulièrement des femmes et des enfants, mais elles étaient très, très peu présentes en médecine générale, en chirurgie ou en médecine hospitalière, qui était plutôt une médecine d'hommes, traditionnelle, on va dire, si on peut dire. Donc elles sont entrées là où il y a eu des nouvelles places pour les médecins. Alors, après la guerre, les choses explosent. Pour vous donner une idée, entre 1963 et 1967, le nombre d'étudiants en médecine est passé donc de 9880 à 24448, c'est-à-dire 150% de plus. Il y a un véritable rush dans les facultés de médecine dans les années 60. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, bien sûr, la médecine est devenue efficace et les pouvoirs publics ont véritablement encouragé la population médicale. Il faut savoir que depuis le début, les médecins se sont toujours plaints d'être trop nombreux. Ils ont toujours dit qu'ils étaient trop nombreux. C'est assez récent qu'ils disent qu'ils ne sont pas assez, mais la pléthore médicale est récurrente, y compris quand on formait 50 médecins en France. Ils se trouvaient trop nombreux. Donc, en fait, ils se sont toujours dit trop nombreux. Et là, vraiment, ça hurlait, quoi, parce qu'ils étaient véritablement très, très nombreux. Ce sont les Trente Glorieuses, l'expansion économique est à son comble, on a besoin de main-d'œuvre. Il faut comprendre que les médecins ont eu, à partir de ce moment-là, un rôle à jouer important dans, justement, je dirais, le maintien en bonne santé de cette main-d'œuvre dont on avait grand besoin. Et donc, on a mis des médecins dans les écoles, dans les entreprises. Il y a eu, bien entendu, la sécurité sociale qui a favorisé, évidemment, l'expansion de la médecine avec l'augmentation des revenus médicaux. Il ne faut pas oublier qu'au début du siècle, les médecins ne gagnaient pas si bien leur vie que ça. Ils se sont vraiment mis à bien la gagner après 1945. Et donc, dans ce contexte-là, on a une accélération donc, de l'entrée des étudiants en médecine. Avec, vous comprenez bien, avec des accélérations comme ça, on est en faculté, le système d'études médicales, c'est l'université, et donc, elle s'ouvre, les universités, à toutes les catégories de la population, et on a, d'ailleurs, un début de démocratisation parmi la population médicale, et on a une certaine ouverture dans le recrutement des médecins. Alors, il y a 68 qui est passé par là, les étudiants en médecine ont réclamé de pouvoir tous pouvoir faire des stages à l'hôpital, ce qu'on appelait l'externat. Ça a explosé dans les CHU, il y avait trop d'étudiants en médecine, et possibilité, du coup, de limiter ce nombre d'étudiants. Ça a été confié d'abord aux facultés de médecine avec l'instauration du numerus clausus en 1970. Pendant quelques années, vous allez le voir, les premières années du numerus clausus, ça stagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de réduction forte du nombre d'inscrits en médecine. Et puis, on a, au milieu des années 70, un début de diminution de ces inscrits en médecine. Et puis, la réforme des études médicales de 1982, avec l'instauration d'un nouvel internat. Et je vais y revenir parce qu'il va se passer pas mal de choses pour les femmes autour de ce nouvel internat. Et une chute massif du numerus clausus qui est désormais décidé au niveau national et qui n'est plus établi en fonction des capacités d'accueil des universités, mais comme disent le texte, en fonction des besoins de santé de la population, qui est un concept un petit peu élastique quand même. Alors, Ça fait longtemps que les médecins réclamaient une diminution du nombre d'entrants dans les facultés de médecine. Mais dans les années 80, les pouvoirs publics les entendent. Ils les entendent d'autant mieux qu'il faut réduire les coûts et que les... on considère qu'il y a donc trop de médecins et que si on réduit l'offre, on va réduire la demande et donc on va pouvoir faire des économies. Alors, au début de cet infléchissement du numerus clausus, il y avait 40% de femmes parmi les étudiants en médecine. À la fin des années 80, il y en avait 50% à peu près. Et à la fin des années 90, autour de 63, 64, 65% selon les années. Donc, alors que le numerus clausus baisse, le pourcentage de femmes en médecine augmente. Et c'est la première fois que ça se passe comme ça, puisque jusqu'à présent, les femmes avaient augmenté leur, présence relative dans un contexte d'augmentation très forte des étudiants en médecine. Vous comprenez bien que s'il y a de plus en plus d'étudiants en médecine, ben les femmes arrivent dans le lot, mais on ne voit pas... elles viennent occuper des places supplémentaires, mais il y a toujours autant d'hommes qui deviennent médecins. Or là, on a une proportion de femmes qui continue à augmenter significativement, alors que le nombre d'étudiants en médecine chute. Alors pourquoi ? Pour la première fois, les femmes apparaissent en concurrence avec les hommes. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles réussissent mieux ? Non, elles ne réussissent pas mieux que les hommes en médecine, elles réussissent même moins bien le concours de première année de médecine. Et il y a des calculs qui ont été faits au niveau national, toutes choses égales par ailleurs. Un homme a même une fois et demie de chance de plus qu'une femme de réussir le concours de première année de médecine. Donc en fait, c'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Si les femmes sont si nombreuses, ça n'est pas parce qu'elles ont réussi le concours mieux que les hommes. En fait, elles arrivent à des proportions presque équivalentes à celles des hommes en surenchérissant du côté de leurs autres qualités, c'est-à-dire qu'elles ont plus souvent des mentions au bac, elles sont plus jeunes, bachelières, elles sont plus souvent issues des familles aisées, qui sont des critères assez déterminants pour la réussite en première année de médecine. Alors c'est sûr aussi que j'ai pas parlé de ça, mais je crois qu'on va vous en parler dans les semaines qui viennent, mais cette arrivée des femmes en médecine est aussi associée au fait que les filles arrivent aussi dans les filières scientifiques, elles arrivent avec des bacs scientifiques où elles réussissent particulièrement bien, et donc médecine devient une des possibilités. On verra pourquoi médecine est plus pratique pour elles que les classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, en fait, les femmes ne réussissent pas mieux que les hommes le concours de première année de médecine, et donc si elles sont de plus en plus nombreuses proportionnellement alors que le numerus clausus baisse, il n'y a qu'une explication à ça, c'est que les hommes ne viennent plus. C'est qu'il y a moins d'hommes. C'est que les garçons, les jeunes bacheliers, se détournent des études de médecine dans les années 80 en particulier. Ils vont faire autre chose. Et là, on se retrouve dans une situation où, en fait, on voit que l'arrivée des femmes en médecine, je disais tout à l'heure, pour certains, ça a été un problème parce qu'on a eu l'impression qu'elles sont arrivées en concurrence avec les hommes, mais en fait, pas du tout. C'était une solution. Et c'était une solution dans un contexte où on avait une expansion assez forte des postes d'encadrement, une attirance très importante, en particulier dans les catégories sociales supérieures, pour tout ce qui est emploi dans le commerce, dans la finance, etc. Et donc, ça attirait énormément les jeunes étudiants, les jeunes hommes. Et là où on aurait pu faire un petit peu de place pour une diversité, une diversification sociale dans le recrutement en médecine, sont arrivées là des femmes qui sont qui étaient plutôt des mêmes milieux, plutôt favorisés que les hommes. Et donc, d'une certaine façon, les jeunes garçons sont allés occuper des positions économiques plutôt du côté de l'entreprise, de la finance, etc. Et puis, les sœurs, leurs sœurs, sont arrivées en médecine. Donc, vous voyez bien qu'il y a une sorte de rééquilibrage des postes dans un contexte un peu particulier qui ressemble un peu à une régulation spontanée, entre guillemets, spontanée, plus qu'à un système ouvertement concurrentiel. C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas augmenté parce qu'elles ont fait concurrence directement avec les hommes. C'est un peu comme quand ils partaient à la guerre, les hommes. C'est-à-dire que les hommes sont partis, les femmes sont arrivées. Et donc, le problème, c'est que, alors que jusqu'à présent, les femmes, elles avaient tendance à faire une médecine de femmes, et ça a toujours été... par rapport à d'autres métiers où les femmes arrivent en général en sacrifiant un peu, si je puis dire, de leur féminité dans un premier temps pour adopter des comportements entre guillemets masculins, ce qui est assez impressionnant chez les femmes en médecine, c'est qu'elles revendiquent tout le temps plutôt une pratique féminine et elles vont quand même en grande majorité là où il y a des nouveaux postes en médecine. Et pratiquer une médecine un peu spécifique, plus salariée, et des spécialités plus proches, toujours, des femmes et des enfants. Par contre, à partir du moment où elles deviennent majoritaires, eh bien, il va falloir qu'elles s'orientent partout. Et c'est là que les choses vont commencer à changer. Il va falloir qu'elles prennent la place des hommes dans tous les modes d'exercice de la médecine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces générations-là, les premières femmes qui vont arriver majoritaires, entre guillemets, sur le marché du travail médical, elles arrivent dans un contexte qui est encore un contexte de pléthore. C'est-à-dire qu'elles arrivent, mais elles ne se font pas trop remarquer. Elles peuvent s'organiser assez tranquillement, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où on les scrute un peu et on regarde un peu comment est-ce qu'elles fonctionnent. Là, elles ont un peu bricolé leur affaire. Alors, pour que vous compreniez ça, je vous montre seulement, vous voyez, en 2010, on est passé à 50% de femmes parmi les médecins en exercice. On était à 50% d'étudiants en médecine à la fin des années 80. Donc, on a un décalage. Comme en plus on a eu une réduction très forte des sortants et qu'on avait encore beaucoup de médecins en exercice, on a un décalage très fort entre le moment où on voit les choses arriver et où elles arrivent réellement auprès des populations actives. Alors, donc, elles arrivent dans un contexte de pléthore. Elles viennent plutôt, je l'ai dit, de milieux aisés, plutôt traditionnels, ça a toujours été le cas parmi les médecins. Elles font plus d'enfants que les femmes de même niveau de diplôme. Les hommes médecins aussi font plus d'enfants que les hommes de même catégorie. Les hommes et les femmes médecins font plus d'enfants que les autres au même niveau d'études. Ils sont un peu plus catholiques aussi, plus souvent catholiques que les autres, donc ce sont des milieux assez traditionnels et même sans ça, enfin... Et donc, les femmes aussi, les femmes médecins ne renoncent pas à faire des enfants, pour autant. Elles ne se comportent pas comme les femmes cadres qui, elles, vont avoir un nombre d'enfants très faible. Elles continuent à se comporter, je veux dire, toujours pareil. C'est-à-dire, elles ne renoncent pas à leur place de femme et de mère, surtout. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir en quelques années un revirement dans les orientations des femmes. Et elles vont être assignées, j'ai envie de dire assignées de force à la médecine générale. On a beaucoup dit que les femmes choisissaient la médecine générale. En fait, les femmes n'ont rien choisi du tout. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Elles ont été, en quelques années, assignées à la médecine générale. Et je vais essayer de résumer ça autour de ce qui s'est passé avec la réforme de l'internat de spécialité en 1982. Alors, je vous rappelle quel était le système, je le simplifie à outrance, avant 1982. Avant 1982, tous les étudiants en médecine qui passaient leur thèse étaient médecins généralistes. La médecine générale était le lot commun de tous les étudiants en médecine. En tout cas, ils pouvaient tous pratiquer la médecine générale. C'était la pratique de base de tout médecin. Et la spécialité arrivait en plus, soit par la voie des internats des hôpitaux. Les internats, ce sont des concours hospitaliers. C'était le concours de l'accès au premier grade des fonctions hospitalières. Soit par la voie des certificats d'études spéciales, qui sont des diplômes universitaires qui ont été mis en place après la guerre dans les universités et qui débouchaient donc sur un diplôme qui donnait ou non, d'ailleurs, les CES ne donnaient pas tous le droit à la qualification de spécialiste. C'était un système extrêmement complexe, parce qu'il y avait aussi le Conseil de l'Ordre qui était susceptible de pouvoir qualifier des spécialistes. Il l'est encore en théorie, mais ça ne fonctionne quasiment plus. Et donc, ces spécialités et ces compétences médicales étaient très prisées par les femmes qui pouvaient les faire. D'ailleurs, on pouvait faire un CES à différents moments de sa carrière, y compris après avoir exercé comme médecin, généraliste. Alors, les deux premières voies étaient des voies assez masculines, qui étaient choisies plutôt par les hommes, et la troisième voie était une voie plus féminine. Et quand les femmes étaient médecins généralistes, elles étaient plus souvent salariées que libérales. Après 1982, voilà le schéma. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la médecine générale avec le résidanat, sans les concours, et de l'autre côté, un internat de spécialité, qu'on a appelé un internat de spécialité, avec un concours national, enfin interrégional, mais quand même un concours national, qui donnait accès à des diplômes d'études spéciales et DES qui permettaient d'exercer un certain nombre de spécialités chirurgicales et médicales. Je ne rentre pas dans le détail de ce système, mais vous aurez remarqué qu'il ne reste plus que deux voies, qui sont des voies concurrentielles, concurrentielles dans la pratique avec la médecine libérale, concurrentielles dans l'accès avec le concours, et deux voies qui étaient quand même plus masculines et la voie plus féminine supprimée. Alors que font les femmes ? Font ce qu'elles peuvent dans un premier temps. Et dans les premières années, ça a été très radical. C'est-à-dire que, en quelques années, on a vu alors qu'on avait une majorité de femmes qui étaient spécialistes, on a vu une majorité de femmes passer généralistes, et même les années qui ont immédiatement suivi le concours, ça pouvait aller entre 70 et 80% de femmes qui étaient médecins généralistes, alors qu'avant, elles étaient vraiment minoritaires à choisir la médecine générale. Donc là, elles ont été véritablement assignées à la médecine générale. Et ce qui est assez intéressant, c'est alors évidemment ce taux massif. Bon, elles se sont reprises, si je puis dire. Elles se sont mises à préparer le concours de l'internat, qu'elles n'avaient pas dans l'idée de préparer avant. Et elles ont petit à petit rattrapé ça. Et quand en 2005, ce système-là a été supprimé au profit des épreuves classantes nationales, elles avaient des taux de réussite équivalents à celui des hommes. Mais vous savez, pour le concours de l'internat, c'est comme pour le concours de première année de médecine. Ce type de concours est en général plutôt défavorable aux femmes. Alors, il y a plusieurs façons de montrer comment est-ce qu'elles sont passées d'une orientation à une autre. Et là, j'ai choisi de vous montrer la façon dont elles-mêmes en parlaient, c'est-à-dire les femmes de cette génération-là, quand on leur demandait comment est-ce qu'elles avaient choisi leurs orientations, vous allez voir que c'est à peu près toujours la même façon de le dire, que l'on se trouve médecin généraliste ou médecin spécialiste, et cette façon de le dire, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors d'abord, pour une femme biologiste, elle dit Mais ce qui m'a fait en fait enlever l'idée de la médecine générale, c'est aussi que les remplacements que j'ai faits, j'ai vu que c'était un métier hyper difficile. Il faut être disponible. Quand on a des enfants, c'est quasi impossible. Bon. C'était quelque chose de très marquant pour cette génération-là. La plupart, alors évidemment, on est obligé de simplifier parce que la réalité, elle est plus complexe que ça. Pour la plupart, la médecine générale était associée à un métier d'homme. D'ailleurs, c'était souvent ça qui était dit. C'est pour ça que féminin, masculin, en tout cas, c'était associé à homme. La médecine générale, c'est un métier d'homme. Et donc, pour une femme qui a des enfants, ce n'est pas possible. Et l'autre, vous voyez, elle dit la même chose, d'une certaine façon. En tant que femme, ma vie personnelle me tient beaucoup à cœur, donc je savais que je voulais des enfants, que je m'orientais plutôt vers une vie stable de couple. Si les conditions d'exercice étaient présentées comme ça, en tout cas, je pense que je n'aurais pas pu faire une croix sur ma famille, enfin, pour mon métier. Et c'est très intéressant de voir que souvent, les arguments développés par les femmes de cette génération-là, c'était « je ne fais pas de la médecine générale » ou « je ne fais pas » ou « je ne passe pas le concours de l'internat », alors que les hommes avaient des arguments positifs. Et tout simplement parce qu'elles ont eu tout d'un coup en face d'elles deux choix qui étaient des choix qui étaient plutôt des identifications, on va dire, masculines. Je réduis un petit peu. Mais si vous regardez dans la même génération, deux femmes généralistes qui expliquent pourquoi est-ce qu'elles ont fait de la médecine générale. En fait, elles n'ont pas fait de la médecine générale, elles ont choisi de ne pas préparer l'internat, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais elles disent à peu près la même chose. Quand j'étais avec mon copain médecin, je lui ai dit entre préparer l'internat et avoir une vie de famille, je choisirais avoir une vie de famille. Et l'autre, enfin, à l'époque, j'aurais bien aimé faire de la dermato, le stage que j'avais fait en D1, D3, 83-84. Donc, en fait, elle arrive en fin de cursus, la réforme tombe. Donc là, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'espoir de faire un certificat d'études spéciales, un CES. Et donc moi, je ne me suis pas présentée à un examen de façon à redoubler. Et puis là-dessus, j'ai commencé à pas mal travailler. Puis mon mari est parti au service militaire et j'étais enceinte. Et puis voilà, l'internat, je ne l'ai pas présenté. Vous voyez que les choses se disent à peu près de la même façon. Elles se disent plutôt par un rejet d'une voie plutôt que par adhésion à une autre voie. Alors, moi, j'ai interrogé des femmes de cette génération-là, de la génération d'avant aussi. C'était encore plus clair, d'ailleurs. Et 10 ans après, des étudiantes en médecine qui me disent... Alors, moi, j'en croyais pas mes oreilles, parce que, alors, il y avait toujours cette idée qui traînait comme ça, que la médecine générale, c'est un métier d'homme. Mais tout d'un coup, j'entends... Oh, ben, la médecine générale, c'est bien pour les femmes. C'est un métier de femme. C'est un métier qui est bien. Bon, alors, je me disais, c'est quand même assez curieux. Comment est-ce que, comme ça, en quelques années, un métier change de genre? En tout cas, en termes de représentation pour les étudiantes, elles avaient adopté l'idée que la médecine générale, c'était bien pour une femme, la médecine générale libérale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes qui se sont trouvées assignées à la médecine générale? Et qu'on pu le faire, j'allais dire, presque assez tranquillement, donc dans un contexte où il y avait encore beaucoup de médecins, et où elles sont passées, donc elles ont fait un métier de femme d'un métier d'homme. Elles ont converti ce modèle de la disponibilité permanente. C'est quoi le modèle de la disponibilité permanente? Ben, c'est en fait une organisation du travail de la médecine libérale qui faisait qu'un homme était disponible tout le temps, y compris la nuit, les week-ends, pour ses patients, pour ses activités, etc. Et bien, en fait, s'il peut choisir le temps pendant lequel il est disponible, et bien les femmes vont choisir aussi le temps pendant lequel elles peuvent être disponibles. Elles ont adapté. Et finalement, la médecine libérale s'est trouvée relativement bien adaptée et adaptable à d'autres formes d'organisation. Elles ont pu aussi, parce qu'il faut savoir que la réforme de 82 a supprimé un certain nombre de spécialités médicales très féminisées, comme la gynécologie médicale, par exemple, qui est revenue après, mais enfin, qui a quasiment disparu à cette occasion. La pédiatrie, qui a été en place très limitée, donc plus hospitalière, avec peu de pédiatrie de ville. Donc, en fait, elles ont acquis des compétences complémentaires et elles ont adapté des formes de pratiques qui leur permettaient de récupérer ce qu'elles n'avaient pas pu faire s'il y avait eu l'internat. Et en fait, elles se sont mises à fonctionner en complément d'une médecine générale plus traditionnelle et en faisant un certain nombre de remplacements, c'est-à-dire y compris à organiser différentes temporalités dans leur vie. Mais aussi en important un certain nombre de modèles de pratiques de la médecine qui étaient des modèles plus féminins. Et j'y reviendrai dans un deuxième temps. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes qui sont des lycéennes brillantes, qui font des études scientifiques, qui ont des bacs avec mention, elles pourraient bien aller dans les classes préparatoires aux grandes écoles et faire finalement les métiers d'ingénieurs qui s'ouvrent aussi aux garçons. Or, les classes préparatoires aux grandes écoles ont connu une vague de féminisation qui a plutôt stagné, voire qui régresse. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas pour une raison qui est assez simple, c'est que si on compare la rentabilité d'un diplôme médical d'un diplôme de docteur en médecine et la rentabilité d'un diplôme d'ingénieur, c'est absolument sans comparaison, en particulier pour les femmes. Il n'y a absolument aucun métier de cadre que l'on peut exercer en l'adaptant à différents types de pratiques, en ayant la mobilité que l'on peut avoir, en ayant éventuellement des baisses de régime et en reprenant plus tard, sans avoir perdu toute capacité d'insertion sur le marché de l'emploi. De ce côté-là, les entreprises, elles n'ont absolument rien adapté. Et puis, ces femmes médecins, elles sont mariées. Elles sont des enfants, on l'a dit. Elles sont mariées pas forcément avec des hommes médecins. Elles sont mariées avec des hommes qui sont souvent cadres dans des entreprises, qui, eux, donc, ont des exigences en termes de mobilité qui fait que, en fait, il vaut mieux pas. Il y a une sociologue qui s'appelle Catherine Marie qui a travaillé sur les femmes ingénieures et elle a très bien montré que finalement c'était excessivement difficile pour les femmes ingénieures de mener une carrière et surtout quand il y avait un couple d'ingénieurs parce qu'alors là, elles étaient en contradiction sans cesse. Et donc, en fait, pour ces femmes qui sont assez brillantes, la médecine, c'est un excellent placement, si je puis dire. C'est une très bonne rentabilité en matière de diplôme. On a beaucoup dit que les médecins ne gagnaient pas bien leur vie. Il faut comparer là aussi avec les salaires des cadres. Ils gagnent quand même plutôt bien leur vie. Même les médecins salariés gagnent mieux leur vie que les cadres. Donc là-dessus, il faudrait probablement beaucoup revoir les choses. Alors, les femmes médecins gagnent un peu moins que les hommes médecins, mais si on regarde en termes de niveau de vie, et c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, en termes de niveau de vie, ils sont à égalité. Et vous comprendrez bien que entre le modèle de l'homme médecin qui travaille énormément et dont la femme est à la maison, et un couple de médecins qui vont travailler moins tous les deux, ou un cadre médecin, un couple cadre médecin, les deux vont travailler éventuellement un peu moins, finalement, en termes de niveau de vie, c'est équivalent. Et même quand elles se retrouvent seules, elles peuvent retravailler plus, alors que les femmes salariées des entreprises, c'est beaucoup plus difficile. Donc, vous voyez qu'en fait, l'arrivée des femmes en médecine, elle correspond, entre guillemets, on va être assez pragmatique, à un créneau qui est plutôt intéressant pour elles, dans un contexte d'emploi particulier. Mais dans ce contexte-là, en même temps, elles importent quand même un nouveau modèle de pratique, dans la mesure où elles sont arrivées très brutalement, on a dit, en médecine générale. Maintenant, elles arrivent un peu partout, doucement. Mais elles pratiquent quand même une médecine un petit peu différentes. Elles ont tendance à importer un modèle de médecine plus collectif. Les femmes médecins aiment assez peu travailler seules. Elles ne recherchent absolument pas le travail seul. Le modèle du colloque singulier dans sa version la plus puriste n'est pas forcément quelque chose qui les attire énormément. Et comme elles ont beaucoup travaillé dans des collectivités, avec d'autres, elles ont tendance à travailler moins seules et à chercher à travailler moins seules. Elles hésitent aussi beaucoup moins et elles recherchent plus à travailler avec les paramédicaux. Et là, on a une barrière qui est tombée, c'est celle de la différence des genres en même temps que la différence des grades entre les médecins hommes d'un côté et les paramédicaux qui étaient en majorité des femmes de l'autre côté. Là, on a un mélange qui permet que les choses se passent souvent un peu plus facilement, en tout cas, à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Elles sont quand même, en général, quand on regarde comment est-ce qu'elles pratiquent, parce qu'il y a quand même pas mal de travaux qui sont faits qui comparent les pratiques médicales des femmes et des hommes, on voit qu'elles pratiquent une médecine qu'on pourrait dire un peu plus sociale, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus attentives et dans les entretiens qu'on fait avec elles, ça se ressent aux situations les plus difficiles. Est-ce que c'est un réflexe de dominer ? Elle aussi. En tout cas, il y a une proximité avec les personnes qui connaissent des situations difficiles, une attention plus forte. Elles ont un souci de prévention, alors qui arrive vraiment chez les jeunes générations de médecins. Je dis ça et en même temps, on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont des caractéristiques qui traversent les jeunes générations de médecins, hommes comme femmes. C'est-à-dire, c'est un peu ce modèle-là qu'elles ont accompagné. Avec un souci de prévention, alors c'est quelque chose, les médecins, il y a 30 ans, ils ne parlaient jamais de santé publique, c'était presque un ennemi, la santé publique. La prévention, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes médecins parlent énormément de santé publique, parlent énormément de prévention. Et donc, du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la médecine libérale à l'acte leur convient assez mal et qu'ils n'en veulent pas trop. Les femmes passent plus de temps dans les consultations. Là, les travaux de l'ADRES le montrent très bien. C'est-à-dire qu'il y a des différences dans les temps de consultation entre les hommes et les femmes qui sont assez importants. Donc, il y a une plus grande disponibilité aussi. Et là, on pourrait se demander, justement, si ce n'est pas un modèle maternel qui vient remplacer le modèle paternaliste. Et c'est une réflexion aussi que je me suis faite. J'ai assisté il y a quelques semaines à une soutenance de thèse d'une jeune sociologue qui a travaillé sur les femmes chirurgiens. Et souvent, enfin, les hommes chirurgiens ont une sorte de vision comme ça et un peu divine de leur vocation. Et je peux vous assurer que dans les entretiens, Dieu vient parfois comme modèle. Et c'est pas très étonnant d'ailleurs. C'est les femmes chirurgiens qui revendiquent en particulier vraiment une pratique féminine distincte. Elles emploient plutôt des termes qui sont maternants. C'est-à-dire c'est plutôt une référence à la mère. On va dire, est-ce que c'est la mère remplace Dieu dans ces images En tout cas, il y a peut-être une forme Est-ce qu'on peut dire maternaliste ? Je ne sais pas. Maternalisme qui remplacerait le paternalisme. Mais bon, on voit bien qu'on a des références qui sont des références féminines, assez classiques, mine de rien. Alors, j'ai été trop vite alors. Alors, la médecine est-elle un métier comme les autres ? Alors, d'abord, pas vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très particulier à la médecine, c'est qu'elle s'inscrit dans un droit dérogatoire. Et c'est quoi ce droit dérogatoire ? C'est que les médecins ont une autorisation qui n'est donnée, je crois, à absolument aucun autre professionnel, qui est celle de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important et dans notre société plus important que jamais. C'est-à-dire, je ne crois pas que la médecine pourra jamais être considérée comme un métier comme un autre, quoi qu'il arrive, parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et voilà, donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important, mais que cette façon de porter atteinte à l'intégrité physique, effectivement, elle peut être portée par des valeurs différentes. Alors, la médecine, elle représente un enjeu social et économique fort, mais aussi un enjeu symbolique. Le discours médical, c'est quand même celui de l'édiction de la norme, et c'est un discours qui est normatif et que l'on mobilise de plus en plus. Parfois, d'ailleurs, les médecins voudraient qu'on le mobilise un peu moins, mais qui est mobilisé de plus en plus pour édicter une norme comportementale. C'est aussi un régulateur économique très important. Les médecins sont convoqués pour savoir qui peut travailler, qui ne peut pas travailler. Il suffit de voir la récente réforme des retraites. C'est eux qui vont quand même dire qui a un taux d'invalidité. Donc, ils sont convoqués à tous les moments de la vie, sans arrêt, pour réguler les rapports sociaux. Donc, je ne pense pas que la médecine puisse être, de ce point de vue, un métier comme un autre. La médecine est aussi une profession qui garde un fort prestige social et moral. Dans toutes les enquêtes sur les prestiges et les valeurs des professions, qui arrive en tête des métiers à fort prestige, eh bien, le médecin généraliste. C'est très important. Donc, quand on dit que les médecins sont dévalorisés, non, je crois que ça reste une valeur très forte dans notre société. Et elle est exercée par une élite sociale et économique. Ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que je pense qu'elle est très convoitée. Elle est très convoitée parce qu'elle présente tout un tas d'avantages, et en particulier celui aussi de la maîtrise du corps et du soin du corps, qui est quelque chose de très fondamental dans une société. Pour autant, on voit bien qu'elle est basée sur un système d'expertise qui est de plus en plus partageable et de plus en plus discutable. Donc l'accès à l'information transforme un peu la position intellectuelle du médecin. Mais elle n'est pas coupée du monde économique et social. Et je crois que c'est ça qu'il faut véritablement retenir de ce qui se passe autour de la féminisation, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une... Elle permet une véritable régulation des places et des rôles des individus dans la société, et qu'il est important de l'étudier, en revanche, comme une profession, comme les autres, alors que ça n'a pas été souvent le cas. On a souvent étudié les médecins à part des autres professions, et il serait sûrement intéressant de regarder d'ailleurs plus près les liens entre les différentes professions, et tout particulièrement au niveau des femmes. Alors, l'avenir de la médecine est-il féminin ? Alors, les femmes, elles sont très présentes, elles ne sont pas partout présentes, elles sont très, très, très peu représentées dans les instances de pouvoir, vraiment très peu. Elles sont peu présentes aussi dans les universités. Donc, on voit bien que cette féminisation, elle ne gagne pas tous les secteurs de la médecine. Elle gagne aujourd'hui tous les secteurs de la médecine de soins, mais il n'empêche qu'elles ne sont pas dans les instances de pouvoir. Et c'est assez frappant, d'ailleurs, quand on discute, on a aujourd'hui un double hiatus, j'ai envie de dire, de genre et de génération entre la base de la profession médicale et les représentants. Alors, est-ce que c'est une féminisation définitive ? C'est en termes de nombre, là, je parle. Est-ce que on va avoir une médecine majoritairement exercée par les femmes sur le long terme ? Je n'en suis pas sûre. Si on regarde depuis une dizaine d'années ce qui se passe dans les facultés de médecine, parce qu'évidemment, comme ça continue à augmenter au niveau des médecins en exercice, on voit qu'il y a une féminisation qui augmente. Mais si on regarde ce qui se passe dans les facultés de médecine, elle augmente plus. Elle augmente plus depuis 10 ans, et voire, dans certains cas, elle régresse. Or, je ne sais pas si vous avez en tête la courbe du numerus clausus, lui, il augmente. Ah, est-ce que les hommes reviennent ? Est-ce que les hommes reviendraient en médecine ? Et quels hommes reviennent en médecine ? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui sont partis ? En tout cas, il n'est pas du tout sûr que cette féminisation se poursuive au même rythme et de la même façon. On pourrait très bien avoir un retour de balancier comme il y en a eu à différents moments de l'histoire. Et je pense d'ailleurs que la crise économique va jouer son rôle dans ce sens-là, c'est-à-dire que la profession médicale est une profession remarquablement protégée par rapport à toutes les autres professions d'encadrement. Donc, il n'est pas du tout impossible qu'on ait un revirement de tendance dans les années qui vont venir. Est-ce qu'il faudrait une concurrence entre les hommes ? À partir de quel moment on peut penser une concurrence entre les hommes et les femmes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y en a pas besoin, je crois. Justement, c'est les femmes, quand je disais au départ qu'elles étaient arrivées en douce, eh bien, en fait, elles ont transformé, déjà, elles ont contribué à la transformation du métier. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est assez étonnant en médecine, c'est qu'on voit la superposition d'un certain nombre de modèles. Et le modèle qui prévaut parmi les jeunes générations, c'est plutôt un modèle qui a été porté par les femmes. Je ne sais pas si c'est un modèle qu'on peut qualifié de féminin, parce que ça, je trouve que c'est un peu compliqué de dire que c'est un modèle. Mais en tout cas, les femmes ont porté ces changements-là et que l'on observe dans les jeunes générations de médecins, et ce qui explique probablement la difficulté qu'il y a aujourd'hui à penser une médecine pour toutes ces générations qui véhiculent des modèles aussi différents. Alors, pour conclure, je vais seulement poser des questions, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de médecine et peut-être quelle médecine voulons-nous et pour qui ? Parce que, bon, la démocratisation de la médecine, elle n'a pas eu lieu et on a un véritable problème, je trouve, de recrutement de la population médicale qui est très peu adaptée aux populations les plus en difficulté, les plus précaires. On est en France dans un pays où on est champion d'Europe des inégalités sociales de santé, alors qu'on a une très forte densité médicale et qu'on n'est pas les pires en matière d'inégalité sociale en général. Donc on a un problème. Je pense qu'on a un système de santé qui est assez mal adapté pour les populations les plus en difficulté. Hein. Et ces écarts et ces inégalités s'aggravent. Donc en fait, on se rend compte aussi, moi qui travaillais un peu sur cette génération justement des années 60-70, qu'il y avait une plus forte diversification dans les recrutements des médecins qui pouvaient aller travailler dans différents milieux aussi plus facilement et plus spontanément que ça n'a été le cas. Et les femmes sont à la fois plus ouvertes à ça, mais elles ont les mêmes difficultés quand elles sont recrutées dans les mêmes sphères sociales que les hommes à travailler. Donc, en fait, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas, on parle beaucoup des médecins, des patients et de ceux qui ont le plus besoin de médecins aujourd'hui et qui ont le plus de difficultés à être soignés correctement. Et donc, je terminerai là-dessus. Pour qui ? Quelle médecine ? Et je vous remercie de votre attention. Il y a plusieurs façons de le dire. J'ai assisté à un débat hier au Conseil national de l'Ordre avec Elisabeth Hubert, qui vient de rendre un rapport sur la médecine de proximité. Alors, bien sûr, on a parlé des femmes et de la permanence des soins, de tout un tas de choses comme ça. Alors, c'est là où, justement, il faut se méfier entre les faux problèmes et les vraies questions. C'est-à-dire, je pense que c'est un rapport avec la féminisation de la médecine, mais ce n'est pas un problème de femmes, là, par contre. Je pense que c'est un rapport avec la féminisation de la médecine dans le sens où il y a de nouveaux modèles d'exercice de la médecine qui ont été portés par les femmes, mais qui sont aujourd'hui aussi bien relayé par les jeunes médecins hommes que femmes. Donc, il y a des nouveaux modèles qui sont liés aussi, on n'a pas tellement parlé de ça, mais à quand même une certaine évolution dans le recrutement des médecins, c'est-à-dire que le modèle indépendant, qui était très fort quand on interroge les étudiants en médecine des générations précédentes, il y en avait un certain nombre qui avaient cette idée très forte, c'est-à-dire je veux faire médecine parce que je veux exercer un métier libéral. D'ailleurs, vous voyez, quand ils disent je veux médecine, ils allaient dans les autres métiers libéraux. Et donc, il y avait cette volonté, quand on allait faire médecine, de faire une médecine libérale. Et alors, c'était intéressant parce que le recrutement des étudiants en médecine, il y avait une surreprésentation parmi les enfants d'indépendants. Donc, on voyait qu'il y a un milieu qui valorisait le travail indépendant et les professions libérales. Et aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire qu'on est toujours plutôt dans les catégories supérieures, pareil, moyenne supérieure. Mais on a beaucoup plus d'enfants d'enseignants, beaucoup plus d'enfants de cadres et de cadres même de la fonction publique. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans les jeunes générations d'étudiants, on a une valorisation plus du service public, de la notion de service, et pas du tout, alors pas du tout, le modèle libéral est en baisse. Il y en a quelques-uns toujours qui vont être attachés à ça. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais on voit émerger un nouveau modèle avec des valeurs qui sont complètement différentes. Et donc, le fait est que même ces étudiants-là, ils ne supportent pas le paiement à l'acte, ils ne supportent pas de ne pas pouvoir faire de la prévention. Ils sont attachés à un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus fortes chez les générations d'aujourd'hui que le modèle libéral en lui-même. Et là, on a un hiatus qui est énorme entre les représentants de la profession des générations précédentes, qui portent ces valeurs-là très fort, et les jeunes qui ne les portent pas, qu'en portent d'autres. Hein, ce n'est pas qu'ils n'en veulent pas ou qu'ils n'ont pas le courage de faire ceci ou cela, c'est qu'ils en portent d'autres et qu'ils ne voient absolument pas l'intérêt d'exercer la médecine en libéral. Ils n'y voient absolument aucun intérêt. On a parlé de la féminisation, par exemple, à propos de la permanence des soins. Des femmes qui travaillent la nuit, on a toujours eu. Les infirmières, elles ont toujours travaillé la nuit. Le problème, il n'est pas que les femmes travaillent la nuit ou elles ne travaillent pas la nuit. Le problème, c'est l'organisation. C'est la façon dont les choses sont organisées. Et l'organisation de la permanence des soins est tellement peu organisée, si je puis dire, que du coup, les femmes n'y vont pas. Donc, je pense que c'est plus un système d'organisation de la pratique, de valeurs différentes qui sont portées par les uns et par les autres, parce qu'il n'y a aucun rejet parmi les étudiants en médecine, de la médecine générale et même de la médecine ambulatoire. Ils aiment leur métier, ils aiment le fait, mais c'est vrai qu'ils ne veulent pas s'installer dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui on exerce la médecine libérale. Ils ne veulent pas travailler seuls. On revient de plus en plus des modèles aussi d'associations, parce que là aussi, c'est des modèles concurrentiels, ça fonctionne plus ou moins bien, ils sont plus ou moins heureux. Et en tout cas, les jeunes médecins aujourd'hui demandent à travailler sur des modèles pluridisciplinaires aussi, à travailler avec d'autres professionnels. Et je crois que ça, c'est... Donc, voilà. On peut dire, oui, il faut faire attention quand on dit ça. Ce n'est pas les femmes qui empêchent d'eux. Hein. C'est fini l'époque où les femmes faisaient médecine pour ne pas travailler après. Elles travaillent toutes après, maintenant. D'ailleurs, si tant est que ça a été une époque. Mais voilà, donc on a une vraie activité. Alors, le nombre de médecins baisse un petit peu. Depuis peu, il va remonter assez vite. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu de baisse massive du nombre de médecins, malgré ce numerus clausus-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que combien faut-il de médecins en France ? Je vous rappelle quand même que si on a baissé comme ça le numerus clausus, c'est qu'on voulait qu'il y en ait moins. Alors après, on dit, mon Dieu, il y en a moins. Enfin, c'est mathématique. C'est-à-dire, si on baisse comme ça, de cette façon-là, numerus clausus, après, il y en a moins. Mais combien en faut-il ? La France fait partie des pays européens qui a un des plus forts taux de démographie médicale, de densité médicale. Donc, est-ce que la question, elle est le nombre de médecins, ou est-ce que la question, elle est comment on organise cette médecine ? Parce que je pense qu'il n'y a pas un chiffre magique. On a calculé théoriquement combien il faudrait de médecins avec des pratiques qui ont changé en plus, les années passant, avec une démographie de la population qui a changé, des personnes qui vieillissent, y compris dans les campagnes, ce ne sont plus les mêmes personnes que l'on soigne dans les campagnes aujourd'hui qu'avant. Et donc, avec des conditions de travail qui changent aussi dans les zones périurbaines. Alors évidemment, plus c'est difficile, avec l'exercice libéral que l'on connaît aujourd'hui, plus c'est difficile, moins il y a de médecins, plus c'est difficile, et on est dans cette espèce d'entraînement que vous donnez. Mais la question de fond, c'est quelle médecine on organise ?
Pendant ce temps-là. Et donc, je pense qu'il y a eu le déficit médical
Oui, mais tout ça, on le savait, quand on a baissé le numerus clausus, on voulait diminuer le nombre de médecins.
Ça a été fait pour diminuer les coûts de la santé.
Ça, oui,
ça a
été fait tout à fait. Mais on a quand même...
Ça n'a pas du tout marché.
Il n'y a qu'un pays en Europe qui a une densité médicale un peu supérieure à la nôtre, c'est la Belgique. On a la densité médicale la plus forte. Donc je pense qu'il n'y a pas de nombre de médecins, il y a une organisation de la médecine qui est importante à réfléchir et à réfléchir à nouveau. Parce que le problème, il est effectivement dû au fait que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer dans les conditions dans lesquelles leurs aînés travaillent ou travaillaient. Y compris dans les villes, y compris dans les centres-villes. Donc, il y a un véritable problème. Et si les générations ne s'écoutent pas et ne s'entendent pas, à mon avis, on va un peu dans le mur. Et il faudra peut-être que la situation soit vraiment catastrophique pour qu'on fasse quelque chose. Mais là, il y a un véritable problème. Et justement, il y a plusieurs modèles. Ce que je veux quand même signaler, c'est que les... Voilà. Et l'internat et les ECN font beaucoup de mal à la régulation démographique, territoriale. C'est quelque chose qui est... C'est complètement fou, ce truc. Enfin, excusez-moi, mais... Les concours de médecine, moi, je trouve ça passionnant, mais c'est une folie pure. C'est aussi un vrai modèle français où on classe les gens dans un système hyper rigide alors qu'on aurait besoin que ça bouge. Alors, ils ne peuvent plus bouger au cours de leur vie et ils sont coincés dans des territoires avec des systèmes de rivalité et de valeurs qui n'ont pas grand sens, à vrai dire. Donc voilà, mais c'est hyper rigide. C'est
les...
Ah ben bien sûr, ça a été suivi. Et en fait, depuis les années 80, on s'est dit on va réguler la démographie médicale et donc on va rigidifier le système. Comme ça n'a pas bien marché, on s'est dit on va le rigidifier un peu plus. Et comme ça ne marche toujours pas, on le rigidifie encore plus. À un moment donné, je pense qu'on va... Si maintenant, qu'on a tout filiarisé, on veut régionaliser, c'est-à-dire qu'on aura un poste là. Une fois qu'on aura fait tout ça, je pense qu'on n'arrivera pas plus, parce qu'en fait, les problèmes, ils sont inhérents justement à cette rigidification, je pense. Mais bon, là-dessus, j'écris depuis longtemps, mais ça ne sert pas à grand-chose, pas grave. Alors ça, c'est un vieux débat que les sociologues souvent ont... Alors en plus, c'est la poule et l'œuf, quoi. Est-ce que c'est parce que les femmes arrivent que la profession se dévalorise? Est-ce que c'est parce que la profession se dévalorise que les femmes y arrivent? En matière de médecine, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que la profession médicale, elle est essentiellement dévalorisée au sein de la profession du médical. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est criant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire que les médecins pour dire que la profession médicale est dévalorisée. Vous allez dans tous les autres milieux sociaux, les médecins ne sont pas dévalorisés. C'est une profession qui est valorisée. Il y a toujours autant d'étudiants inscrits en première année de médecine. Alors, voilà. Il y a eu cette fuite des hommes à un moment donné. Alors on a dit, voilà, la profession se dévalorise. Mais à l'époque, c'était quoi aussi les valeurs? Elles étaient beaucoup plus axées sur l'entreprise, la réussite, le commerce, les finances. Il y a eu un engouement aussi pour tous ces métiers-là. Moi, je crois qu'ils reviennent. Ils reviennent en médecine actuellement. On ne le voit pas trop arriver. Regardez de près... les inscrits en médecine, je ne sais pas si vous avez des données qui en plus peuvent vous donner quelques indications sur les origines sociales, mais à mon avis, on va voir dans les années qui viennent les hommes revenir. C'est-à-dire que la médecine, un métier dévalorisé, je demande quand même à voir, vous savez, les médecins font quand même partie d'une des catégories qui a les revenus les plus élevés, qui a une sécurité de l'emploi inégalée ailleurs. Un confort inégalé, enfin, et avec des études bien sûr longues, mais un maître de conférence dans les universités et un jeune médecin généraliste, c'est pas la peine de... on peut comparer les salaires et on peut comparer les salaires même à la fin de sa vie. L'enseignant-chercheur dans les autres disciplines universitaires, il gagnera pas ce que gagne un jeune médecin au début de sa vie professionnelle. Et donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un métier difficile, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des horaires parfois justement épouvantables, qu'il n'y a pas des contraintes Mais dire que c'est un métier dévalorisé, qu'est-ce qu'on entend par là? Je pense que la question de la dévalorisation, en tout cas en ce qui concerne la médecine, est une question qui est un peu utilisée pour expliquer un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, vous voyez, à un moment donné, les chirurgiens ont dit, voilà, notre profession est dévalorisée. Bon, alors, les jeunes ne veulent plus faire chirurgie. Ah bon, moi, j'ai jamais vu un seul poste de chirurgie, pas pourvu.
C'est le prix des assurances.
Non, mais on est tout à fait d'accord. Mais voyez comment l'image de la dévalorisation est utilisée. Oui. Les jeunes choisissent, il n'y a aucun problème, toutes les places de chirurgie sont prises à l'issue des ECN. Peut-être un peu moins en tête, ce qui est logique aussi, parce que les choses bougent, parce qu'il y a aussi plus de femmes qui choisissent moins souvent la chirurgie, mais tous les postes sont pris. Et donc voilà, on utilise l'argument de la dévalorisation et après on négocie une remontée des honoraires. Mais bon, de quoi parle-t-on quand on parle de dévalorisation? De quelle valeur? Est-ce qu'on parle de valeur financière? La valeur financière des médecins, elle se porte assez bien, sauf qu'il y a des écarts considérables. Il y a des écarts absolument considérables entre les médecins libéraux en particulier. Mais bon, cet écart-là, c'est peut-être aussi aux médecins de la réguler ou au pouvoir public, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, globalement, on ne peut pas dire que les médecins soient dévalorisés dans une situation où c'est fini, on n'est plus à l'après-guerre pour tout le monde, y compris pour les médecins. C'est-à-dire que, voilà, ils ont quand même bien conservé leur statut et leur position, je crois. Quand on compare avec les autres, il faut regarder.